Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Seize.
Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 25 mai, voilà, un jour férié de plus, une émission spéciale de plus où nous avons réuni pour vous l'ensemble des, enfin, une sélection d'émissions consacrées sur Ligne Droite ou sur Radio Courtoisie à la Pentecôte et au pèlerinage de Chartres, évidemment, ce pèlerinage qui, depuis 40 ans, étonne peu à peu et l'Église et l'Europe et le monde, qui est devenu un phénomène de société. 10 000, 12, 15, 18, 20, 25 000 personnes s'ébranlent et partent ensemble parcourir plus de 100 km de Paris à Chartres dans une espèce de pèlerinage assez inédit, non pas évidemment dans le fait d'aller pèleriner à Chartres, nombreux l'ont fait bien avant que le pèlerinage de chrétienté n'existe, mais parce que voilà, le nombre, la logistique, les prières, la liturgie traditionnelle, le vieil ordo missé est évidemment une spécificité qui a énervé, interloqué, puis interrogé en fait tout simplement les évêques de France, d'abord hostile et ensuite peu à peu, sinon convaincu de la pertinence de cette démarche, en tout cas admiratif certainement des foules déplacées et surtout curieux de découvrir des pèlerins qui, loin d'être plongés dans un passé révolu, loin d'être les tenants d'un ordre ancien qu'ils s'acharneraient à vouloir maintenir en place malgré les planches vermoulues qu'ils composent, sont au contraire des gens de plus en plus jeunes qui d'ailleurs pratiquent une religion qui n'a rien à voir avec l'image caricaturale qu'on peut se faire des traditionalistes. Certains d'entre eux ne vont pas à la messe dite de Saint-Pie V tous les dimanches. Certains d'ailleurs ne vont pas du tout à la messe. Les pèlerins de Chartres viennent de toute la France et aussi du monde entier. Ils sont croyants ou incroyants. Ils sont convaincus ou pas. Ils sont messalisants, comme dit, c'est-à-dire des assistants réguliers à la messe ou encore pas du tout, des chrétiens irréguliers, des catholiques irréguliers. Ils sont là parce que, voilà, marcher ensemble, en priant, en chantant, en méditant, dans cette aventure à la fois humaine et sportive que représentent ces 100 km avalés en 3 jours. Alors évidemment, pour les plus petites jambes, il y a moins de kilomètres, c'est les chapitres des enfants. Pour les vieilles jambes, c'est la route de Jérusalem qui s'est ouverte cette année et qui, parcourra moins de kilomètres. Tous finissent par arriver dans la cathédrale, dont les portes s'ouvriront. Je me souviens, quand j'étais petit, les portes étaient fermées parfois. Évidemment, c'était une bien cruelle et curieuse manière de finir le pèlerinage que de se retrouver au pied de l'édifice sans pouvoir y rentrer. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes et on peut y rentrer. Pourquoi parler du pèlerinage de Chartres ? Voilà, c'est un phénomène. On en a parlé en 2026. Philippe Darentière, il y a quelques jours, nous parlait du pèlerinage qui allait venir. On en a parlé en 2025, en 2023, en 2022. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage ? Pourquoi pèleriner ? Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte ? Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint ? Eh bien voilà, entre les témoignages des uns et des autres, entre ceux qui l'ont fait et ceux qui en parlent, entre ceux qui ont parcouru plusieurs fois ce pèlerinage et ceux qui vont le découvrir, entre l'abbé Raffray qui nous fait découvrir le sens de la Pentecôte, le rôle du Saint-Esprit, donc la Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit justement descend sur les apôtres après la mort du Christ et les libère de la crainte qui était la leur et leur dit de se répandre sur toutes les nations, d'aller enseigner toutes les nations avec ces langues de feu posées sur leur tête, qui ne les brûlent pas mais qui les illuminent et qui les réchauffent. Voici que la Pentecôte est en fait évidemment un message pour aujourd'hui avec ces chrétiens qui, dans un monde de plus en plus déchristianisé et donc dans un monde de plus en plus individualiste, dans un monde qui croit de moins en moins à la solidarité, au point que l'euthanasie, nous expliquons, est une solution digne pour mettre fin à sa vie, comme si le fait d'entourer jusqu'au bout ceux que nous aimons et ceux qui pourraient compter sur notre amour n'était pas quelque chose de plus digne, eh bien, ce pèlerinage de chrétienté est un signe adressé, bien sûr, à la société française. C'est un signe de transformation intérieure, c'est un signe de possible transformation collective. Voilà. L'abbé Raffray, à plusieurs reprises, au cours de ces 3 heures, viendra vous expliquer quel est le sens chrétien, religieux de l'événement. Et d'autres personnes vous parleront, bien sûr, du sens culturel, peut-être du sens politique, en tout cas du sens ecclésial de ce qu'est ce pèlerinage. C'est une manière pour nous d'accompagner, bien sûr, les pèlerins, d'accompagner ceux qui organisent cette vaste manifestation et qui, tout au long de l'année, forment les chefs de chapitre. C'est aussi une manière pour nous d'adresser un signal à ceux de l'équipe de Radio Courtoisie qui sont en train de pèleriner et qui sont en train de rapporter des images, de rapporter des sons, comme on dit dans notre jargon, et qui, bientôt, vont pouvoir, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, mais aussi à l'antenne, vous raconter ce pèlerinage et cette aventure humaine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, encore une fois, et j'espère que vous allez passer 3 heures pleines d'enseignements et pleines de joie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Cette année encore, 16 000 pèlerins marcheront de Paris à Chartres, 108 km en 3 jours pour le week-end de la Pentecôte. Depuis plusieurs années, le nombre de pèlerins augmente et les profils sont de plus en plus jeunes. Alors comment expliquer cet engouement pour ce pèlerinage? Pour en parler ce matin, nous sommes avec l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour monsieur l'abbé.
Bonjour.
Alors vous êtes...
Merci pour l'invitation.
Et merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes prêtre catholique, professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On appelle nos auditeurs peut-être plus jeunes à vous suivre sur vos différents réseaux sociaux. On va en parler d'ailleurs de vos réseaux sociaux. Alors déjà, pourquoi c'est important d'aller au pèlerinage de Chartres encore cette année?
Eh bien, tout d'abord parce que c'est la fête de la Pentecôte et c'est une occasion de fêter cette grande fête de la foi catholique qui revient chaque année, de la fêter dignement, spirituellement, puisque c'est la grande fête de l'Esprit Saint. Donc c'est l'occasion de se placer sous le regard du Saint-Esprit. Et un pèlerinage dans la grande tradition des pèlerinages, eh bien, consiste à partir, à se séparer de ce qu'on a l'habitude de faire chaque jour pour aller pour se rapprocher de Dieu. Donc la marche d'un pèlerinage, le fait de marcher physiquement, c'est une image d'un parcours spirituel où on est en recherche de quelque chose. Et ces 3 jours de pèlerinage, eh bien, sous l'éclairage du Saint-Esprit de Notre-Dame de Paris, enfin, autrefois, quand c'était possible, disons, mais de Notre-Dame de Paris jusqu'à Notre-Dame de Chartres, eh bien, c'est une démarche spirituelle qui est très ressourçante. Et ceux qui l'ont déjà fait, eh bien, en général, reviennent les années suivantes parce que ils savent que ce sont 3 jours de prière, on est en plus au milieu de la Beauce, dans les champs, dans la nature. On fait un peu une bouffée d'air pur spirituel pour qui nous sépare de notre train-train quotidien, de nos habitudes, peut-être de nos mauvaises habitudes, pour nous rapprocher de Dieu, pour se confesser, pour participer à des belles cérémonies. Et donc c'est une grande démarche spirituelle qui est appréciée beaucoup par les jeunes aujourd'hui.
Et ce pèlerinage, il est organisé par Notre-Dame de Chrétienté qui est attachée à la messe tridentine, la messe en forme extraordinaire. Alors on aurait pu croire que la messe extraordinaire allait disparaître petit à petit après Vatican II, et pourtant elle connaît aujourd'hui encore une grande vitalité. Comment vous expliquez cette vitalité aujourd'hui, cet attachement des catholiques français à la messe en forme extraordinaire?
Oui, alors effectivement, comme vous le dites, ce pèlerinage de Chartres à la Pentecôte a cette particularité qu'il est organisé par et pour la messe traditionnelle. Donc depuis 41 ans maintenant, puisque l'année dernière on avait fêté les 40 ans du pèlerinage, eh bien, ce sont des fidèles attachés à la tradition catholique, et en particulier à la tradition liturgique dans l'Église catholique, la tradition liturgique latine, donc ce qu'on appelle les messes en latin, on appelait ça la forme extraordinaire, ou la messe tridentine, la messe traditionnelle, disons. Donc ce sont des fidèles attachés à cette forme de ritualité, à cette forme du sacré qui fait beaucoup défaut dans la société aujourd'hui, qui ont organisé ce pèlerinage de Chartres. Eh bien, je pense, pour répondre à votre question, que précisément la jeunesse aujourd'hui dans le monde, et en France en particulier, manque de ce, a soif de ce sacré, a soif de ce sens du sacré. Et tout aujourd'hui est réduit à un esprit de consommation. Nos vies, nous-mêmes, on est réduit à être de purs consommateurs. On est des employés, on est des instruments, on est des objets, et on considère les autres de la même façon. Finalement, ce monde moderne, avec les promesses un peu illusoires du progrès et du confort, eh bien finalement nous réduit à être des pions consommateurs. Et je pense que vraiment il y a dans la jeunesse aujourd'hui une soif de retrouver le sens de Dieu, le sens de la transcendance, le sens du sacré, le sens de choses, vous voyez, qui sont plus éternelles, plus spirituelles, qui ont une plus grande valeur évidemment. Et donc l'idée aussi, et ça rentre dans cette démarche du pèlerinage, de se dire eh bien, je veux me séparer de moi-même, faire un effort, marcher 100 km ou plus de 100 km, ça fait très mal aux pieds. Mais dans un esprit chrétien, eh bien, le sacrifice, on sait qu'il a un sens s'il nous amène vers quelque chose de meilleur. Il a un sens quand il est tourné vers Dieu et quand, parce que Dieu voit nos efforts, Dieu voit les sacrifices, les renoncements, et il les fait lorsqu'ils sont associés, évidemment, au sacrifice du Christ sur la croix. Eh bien, c'est ça qui fait que nous sommes ensuite associés par Dieu à la résurrection et donc à quelque chose de plus spirituel. Donc, je pense qu'il y a vraiment dans la jeunesse aujourd'hui, et le sujet effectivement du pèlerinage de Chartres là, cette année, vous avez peut-être entendu cette information qu'ils ont été obligés de fermer les inscriptions il y a déjà presque 5 jours, parce qu'ils ne pouvaient plus recevoir pour des questions pratiques, pour la taille de la colonne, la taille des bivouacs. Eh bien, il y a une telle augmentation cette année du nombre d'inscriptions qu'ils ont été obligés d'empêcher les gens de s'inscrire pour des questions de sécurité et d'organisation. Donc, il y a vraiment un engouement qui est très intéressant et très, à mon avis, très, très symptomatique d'une véritable recherche de Dieu dans la société et d'une recherche de plus de sacré, même chez les jeunes chrétiens.
Oui, un retour au sacré, une soif de transcendance. Et donc, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, mais c'est l'abbé Raffray. Alors, on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais ça a quand même du bon, parce que ça vous permet donc de parler notamment de Dieu. Et donc, vous avez un chapitre un peu exceptionnel, parce que c'est un chapitre de personnes qui vous ont connu grâce notamment à Instagram, à Facebook, à Twitter.
Oui, alors pour expliquer aux auditeurs, un chapitre c'est un petit groupe, parce que s'il y a à peu près entre 15 000 et 20 000 pèlerins qui marchent dans cette colonne de Paris à Chartres, alors évidemment il faut marcher par petits groupes qu'on appelle des chapitres, donc entre 30 et 50 personnes. Et alors j'avais déjà fait cette expérience l'année dernière, ça avait eu pas mal de succès, donc j'ai recommencé cette année. J'ai simplement mis un message, une story comme on dit sur Instagram. Donc Instagram, si vous voulez, ça touche des jeunes entre 16 et 30 ans, en majorité. Donc j'ai simplement mis une story, une annonce en disant si certains veulent participer à cela, qu'ils ne l'ont jamais participé et qu'ils connaissent personne, eh bien moi je veux bien les organiser un groupe des nouveaux, si vous voulez, de ceux qui veulent faire leur première expérience. Et alors cette annonce a eu beaucoup de succès puisqu'il y a 100 inscrits. En fait, on a fait deux chapitres, on a fait deux groupes. Un pour les. Alors, c'est à peu près réparti. Il y a la moitié qui ont moins de 21 ans et l'autre moitié qui a plus de 21 ans. Et d'ailleurs, ce qui correspond, j'ai vu les chiffres de l'association organisatrice Notre-Dame de Chrétienté, qui disait précisément que la moyenne d'âge, c'est 20 ans, entre 20 et 21 ans. Donc, ça correspond tout à fait au public de ce pèlerinage. Donc voilà, il y a une centaine de jeunes qui vont venir. Ce sera leur première. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sera leur première participation. Alors j'ai un peu interrogé, j'ai demandé un peu de me donner quelques éléments. Et sur ces 100 jeunes, il y en a une dizaine qui sont pas du tout baptisés, qui sont catéchumènes ou qui veulent juste voir de quoi il s'agit. Et puis la grande majorité sont des gens qui ont été baptisés à la naissance. Et puis, quand ils arrivent à 16, 15, 16, 17, 20 ans, 25 ans, eh bien, se disent, ils n'ont reçu aucune formation, ils ne sont pas allés au catéchisme, ils n'ont pas fait leur communion, etc. Et donc, ils se disent, il faut que je retrouve cette identité catholique qui est la mienne. Et donc, c'est très, très caractéristique des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis principalement sur Instagram, auprès des jeunes. Et c'est exactement le profil. Et chaque jour, sans exagérer, chaque jour, j'ai au moins une personne nouvelle qui s'adresse à moi en me disant comment est-ce qu'on fait pour devenir catholique, pour être baptisé, ou bien pour retrouver, voilà, j'aimerais lire la Bible, j'aimerais apprendre le catéchisme, qu'est-ce que je dois faire ? Je pense, à mon niveau en tout cas, je vois, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Moi, ça fait 14 ans que je suis prêtre, je vous garantis que c'est un phénomène qui n'existe que depuis 2 ans. Pendant les 10 premières années de mon sacerdoce, quand il y avait des jeunes qui voulaient se convertir, c'était vraiment l'exception. Alors on concentrait toutes les forces pour essayer de s'en occuper. Aujourd'hui, ce sont des centaines et des centaines de jeunes qui se tournent vers la foi là, depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc je pense que c'est un phénomène alors qui se voit pas encore peut-être dans la société à l'extérieur, mais qui est réel. Il y a une véritable vague de conversion de la jeunesse en France, de retour de la jeunesse en France vers la foi catholique.
Et vous, alors, abbé Raffray, vous défendez, on va dire, une vision du catholicisme, on va dire péchu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce côté péchu ? Parce que c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que les jeunes viennent vers vous. C'est-à-dire que c'est aussi une une sorte de catholicisme viril, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Si, si, j'ai osé utiliser cette expression, on l'a beaucoup reproché d'ailleurs, parce que viril, ça ne veut pas dire avoir des gros bras et faire de la musculation et manger de la viande. Hein. Viril, ça veut dire, il y a un passage d'ailleurs de la Bible qui dit soyez des hommes. Et on dit d'ailleurs que Sainte Thérèse d'Avila, la grande fondatrice du Carmel, avait cette expression mes filles, en s'adressant aux religieuses qui fondaient avec elle, qui l'accompagnaient, leur disait mes filles, soyez des hommes. Et dans le sens soyez vertueux, soyez forts, soyez fermes, soyez décidés, sachez là où vous allez, d'où vous venez, qui vous êtes, et soyez fiers, heureux et combatifs dans vos convictions. Mmh. Et c'est, je pense que c'est exactement ça que cherchent tous ces jeunes dont je viens de parler, qui sont en recherche d'une identité, d'une foi, d'une transcendance que le monde ne leur a jamais donnée, que le monde est incapable de leur donner. Eh bien, il cherche un christianisme, un catholicisme qui soit complètement assumé et qui soit fier de ce qu'il est. Et si vous voulez, il y en a un peu ras-le-bol de cette vision le catholique, c'est celui qui est en général un petit bourgeois timide, qui est dans la principale caractéristique serait d'être tolérant avec tout, qui est toujours d'accord avec tout le monde, ni pour ni contre, bien au contraire.
Et qui tend l'autre joue.
Mais alors ça, il faut tendre l'autre joue, mais c'est pas la même chose.
Exactement.
Tendre l'autre joue, ce n'est pas la tiédeur. Mmh. Il faut de la force pour être capable d'affronter un ennemi et de le provoquer en lui tendant l'autre joue. Mmh. Pour ça, il faut avoir de la force. Mmh. Et ça, c'est l'image que nous montrent les chrétiens de tous les siècles, depuis les premiers martyrs jusqu'aux chevaliers du Moyen-Âge, et les moines bâtisseurs, ceux qui ont construit les cathédrales, les monastères, etc. Vous voyez, je pense que le fait d'être tiède et mijauré et d'être dans une espèce d'amour béat et bêta, eh bien, c'est une déformation du christianisme, c'est une déformation du catholicisme. Mmh. Le Christ qui nous dit de tendre l'autre joue, qui lui-même tend l'autre joue quand un soldat du grand prêtre avant sa mort lui donne une gifle, il lui dit pourquoi me frappes-tu, si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Donc il faut une assurance, il faut une foi ferme et solide, il faut être prêt à affronter la mort comme le fera le Christ qui va jusqu'à donner sa vie. L'amour, c'est pas quelque chose avec lequel il faut plaisanter. Voilà, l'amour que nous enseigne le Christ, c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'au don de soi, parce que l'amour que nous enseigne Dieu, encore une fois, c'est pas un amour guimauve où Jésus t'aime, tu dois aimer tout le monde et il faut tout tolérer, être indifférent au mal et indifférent à tout ce qui arrive. Au contraire, l'amour, c'est quelque chose d'exigeant. Ceux qui aiment véritablement le savent. Aimer quelqu'un, aimer un enfant, aimer sa femme, aimer tout l'amour même de l'amitié, etc. L'amitié et toutes les formes de l'amour qui existent, eh bien, ça nécessite de s'engager, de se donner, de passer du temps et de renoncer à soi-même pour quelque chose de plus grand.
Mmh. Et ça, évidemment, c'est un discours qui plaît à vos jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte. Il y a le pèlerinage de Chartres, on l'a dit, mais alors la Pentecôte, c'est tout de même une fête chrétienne. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quelle fête, qu'est-ce qu'on fête en ce week-end de Pentecôte ?
Eh bien, la fête de la Pentecôte, c'est cet événement donc qui a lieu 50 jours après la résurrection du Christ. Les apôtres sont réunis au Cénacle avec la Sainte Vierge, et ils sont enfermés parce qu'ils ont peur des Juifs, ils ont peur de ceux qui ont tué le Christ, en disant qu'ils vont être les prochains sur la liste. Et puis, d'un coup, dans cette salle, il y a un vent violent, un grand bruit, et puis apparaissent des langues de feu qui descendent sur chacun des apôtres, et ils sont donc remplis du Saint-Esprit. Et alors la manifestation de cette présence de l'Esprit-Saint, de cette intervention de l'Esprit de Dieu dans le monde, sous la forme de ces langues de feu mystérieuses, eh bien c'est que ils n'ont plus peur, et puis ils sortent de cette pièce dans laquelle ils étaient enfermés, et ils commencent à prêcher à la foule qui était réunie là pour la fête une fête religieuse, et ils prêchent Jésus-Christ, ils expliquent un cours de catéchisme, si vous voulez, et en fait, étonnamment, chacun entend le discours des apôtres dans sa propre langue. Donc c'est une image, si vous voulez, que l'enseignement du Christ, qui nous est donné par le Saint-Esprit à la Pentecôte, donc qui est aussi l'enseignement de l'Église, puisque c'est au moment justement de quand les apôtres sortent à l'extérieur que c'est d'une certaine façon la naissance de l'Église, puisque désormais l'Esprit Saint passe par la bouche des par la bouche des apôtres et donc des évêques, leurs successeurs, eh bien, désormais, la foi est faite pour tout le monde et touche l'ensemble de l'humanité. Et c'est un appel à la mission. C'est un appel pour les chrétiens à être missionnaires, à être heureux, fiers de leur foi et à sortir dans le monde pour évangéliser, comme ont fait toutes les générations de chrétiens depuis ce jour-là.
Merci beaucoup. On rappelle, Abbé Mathieu Raffray, que vous êtes donc prêtre catholique, professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On ne peut plus partir avec vous au pèlerinage de Chartres, je suppose.
C'est trop tard. Mais alors, si certains sont intéressés, quand même, ils peuvent participer soit à la messe de samedi matin qui aura lieu à Saint-Sulpice, à défaut de Notre-Dame, donc à Paris, à 6h30. Soit ils peuvent, par exemple, aller à la messe à l'arrivée à Chartres, à la cathédrale de Chartres, à 14h30, lundi.
Et donc, vous allez prêcher aussi, vous m'avez dit.
Oui, tout à fait. On m'a demandé cette année, parce qu'il faut bien désigner quelqu'un. Et donc, cette année, on m'a demandé de prêcher pour le dimanche. Puisqu'il y a une grande messe aussi le dimanche, alors qui a lieu dans un champ entre Paris et Chartres, à peu près au milieu. Voilà.
Bah je suppose qu'on pourra retrouver votre prêche sur les réseaux sociaux.
Je ne sais pas, il faudra demander à l'association. Je sais pas comment ça...
Bon, on fera en sorte. Merci beaucoup, Abbé Mathieu Raffray, et bon pèlerinage à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et comme chaque semaine, je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. Épisode 23, le Saint-Esprit. Nous passons donc au troisième chapitre de cette première partie du catéchisme sur la foi, qui décrit le symbole de la foi, le credo, pour nous intéresser à cette vérité de foi, « Je crois en l'Esprit Saint ». Alors, que veut dire l'Église quand elle professe « Je crois en l'Esprit Saint » ? Croire en l'Esprit Saint, c'est professer la troisième personne de la Sainte Trinité, qui procède du Père et du Fils, et qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. L'Esprit est envoyé dans nos cœurs, c'est saint Paul aux Galates, pour que nous recevions la vie nouvelle des enfants de Dieu. Alors, le catéchisme ici, c'est la question 136 de l'abrégé de Benoît XVI. Cette question 136 commence par un problème, j'allais dire fondamental, qui est la question du filioque. Vous savez que les orthodoxes se sont séparés, ce sont ces chrétiens qui sont séparés de l'unité de l'Église catholique, donc ils sont séparés de l'autorité de l'évêque de Rome, à cause, en partie, ou principalement peut-être, de cette querelle, ce qu'on a appelé la querelle du filioque, qui effectivement a été ajoutée au symbole des apôtres, à partir du 9e, 10e et au début du 11e siècle de façon définitive. Alors, essayons de revenir sur cette controverse sans prétendre, évidemment, résoudre le problème orthodoxe, mais pour montrer qu'il y a une certaine cohérence, enfin une véritable cohérence, dans la foi catholique, et que malheureusement, historiquement, les orthodoxes se sont appuyés sur cette question pour plutôt des questions politiques. Il faut se souvenir qu'au XIe siècle, la ville de Rome est devenue une ville un peu de campagne, où il n'y a plus tellement d'activité politique, puisqu'elle a été envahie depuis longtemps par les barbares. L'empereur n'est plus sur place, l'empereur est à Constantinople, et donc la ville de Constantinople, c'est à Constantinople que se jouent toutes les décisions pour le monde, la civilisation. Et donc l'évêque de Constantinople, le patriarche de Constantinople, ne comprend pas refuse que ce soit l'évêque de Rome à lui imposer les normes de la foi. Alors, comme je viens de le lire, Croire en l'Esprit Saint, c'est professer la troisième personne de la Sainte Trinité. Là-dessus, il n'y a pas de controverse. Nous avons déjà parlé de la Trinité dans l'un des premiers épisodes. Mais il est ajouté ici qu'il procède du Père et du Fils. Alors, pourquoi est-ce que cette troisième personne de la Trinité procède du Père et du Fils ? Parce que, nous l'avons vu, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe divin, est engendré de toute éternité, donc ça n'a pas commencé, de toute éternité, toujours, tout le temps. Dieu, dans la personne du Père, engendre Dieu dans la personne du Fils, à égalité de lui-même. Donc, vous vous souvenez, cette explication théologique, qui est une vérité de foi, que les personnes de la Trinité sont égales en toutes choses, mis à part leur relation mutuelle. Donc, tout ce que le Père a, le Fils l'a aussi. Sinon, le Fils serait inférieur au Père. Et donc, ce serait un Dieu secondaire ou quelque chose comme ça. Non, il faut affirmer que tout ce que le Père a, le Fils l'a aussi. Et sauf que le Père engendre alors que le Fils est engendré. Alors, une fois qu'on a dit ça, où se situe la troisième personne de la Trinité ? Eh bien, le vocabulaire, les théologiens ont inventé un terme, on dit que le Saint-Esprit est « spiré », comme c'est le terme « inspiré » en français. Donc le Saint-Esprit est « spiré », c'est-à-dire qu'il est lui aussi engendré, mais par le Père et le Fils. L'argument de saint Thomas d'Aquin et des théologiens latins est que si le Père engendrait le Saint-Esprit, qu'est-ce qui distinguerait la génération du Fils de la génération du Saint-Esprit ? Ça ne pourrait plus être simplement leur relation mutuelle, mais il faudrait qu'il y ait une qualité qui appartienne au Fils, qui n'appartienne pas au Saint-Esprit, et réciproquement. Et donc il y aurait une inégalité, en quelque chose, entre la deuxième et la troisième personne de la Trinité. Ce qui ferait du Saint-Esprit une divinité inférieure, d'une façon un peu païenne, alors que, comme chrétiens, nous devons tenir qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et qui est absolument parfait, et que s'il y a trois personnes en Dieu, ces personnes n'ont aucune hiérarchie en elles, en tout cas hiérarchie de qualité. Évidemment, le Père, en étant la source, en étant celui qui engendre, il est le principe, mais il n'y a rien, encore une fois, qui puisse distinguer les personnes entre elles, si ce n'est leur relation mutuelle. Et donc, il faut que la relation du Saint-Esprit aux deux autres personnes soit distincte de la relation du Fils à celui qui l'engendre. Et donc, ce qui distingue ces relations mutuelles, c'est précisément le fait que le Saint-Esprit est engendré par les deux premières personnes. Alors que les deux premières personnes engendrent, elles spirent la troisième personne. J'essaye d'être précis, de ne pas dire de bêtises, on a vite fait de tomber dans l'hérésie lorsqu'on parle de la Trinité. Donc vous voyez le schéma, j'allais dire, c'est le Père engendre le Fils est engendré par le Père, et puis le Saint-Esprit est engendré par le Père et le Fils, tandis que le Père et le Fils ensemble engendrent le Saint-Esprit. Donc il y a quatre relations dans la Trinité, une relation de génération, une relation de filiation, une relation de spiration active et une relation de spiration passive. Et donc ces quatre relations sont les seules choses qui distinguent les personnes entre elles et qui font que ces distinctions entre les personnes n'étant que des distinctions relatives, cela ne cause aucune inégalité entre les personnes. Bon, j'espère que j'ai pas trop perdu d'auditeurs avec ces explications théologiques qui nécessiteraient des schémas et une précision de vocabulaire et puis surtout qui sont justifiables par non seulement les textes de la Sainte Écriture. Quand on avait parlé de la Trinité, on avait déjà mentionné ce passage où le Fils, tout simplement, le Jésus-Christ dit « Je vous enverrai le Paraclet ». Donc, même si il parle de l'envoi dans le monde, de ce qu'on appelle les missions du Saint-Esprit, mais ça veut dire que le Fils n'est pas exclu, voilà, de cette mission, de cet envoi, de cette génération du éternel de l'Esprit-Saint. La troisième personne de la Sainte Trinité, je viens de le lire dans le catéchisme, il est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. L'Esprit est envoyé dans nos cœurs pour que nous recevions la vie nouvelle des enfants de Dieu. Alors, avant de justement de développer cette vie nouvelle que nous recevons par le Saint-Esprit et voir comment dans notre vie chrétienne, eh bien le Saint-Esprit, quel rôle il joue dans la vie de l'Église, etc. Je reviens quelques instants sur cette controverse avec les orthodoxes parce que c'est là où je voulais en venir. Et je pense qu'il est urgent, puisque nous arrivons bientôt aux 1000 ans du schisme orthodoxe, il est urgent de résoudre cette question théologique. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, à plusieurs reprises, les théologiens s'étaient mis d'accord, en particulier au concile de Constance, si je ne me trompe pas, au concile de Florence, où des envoyés, des théologiens envoyés par le patriarche de Constantinople, eh bien, avaient accepté la formulation catholique. Donc, c'est simplement une question d'incompréhension. Et non seulement cette inspiration du Saint-Esprit est bien présente dans la Sainte Écriture, mais elle est aussi présente dans les textes des pères de l'Église, y compris des pères grecs, les grands théologiens qui ont traité du Saint-Esprit, étant les pères cappadociens, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Naziance et Saint Basile de Césarée. Et on trouve dans leurs textes cette expression justement des relations mutuelles entre les personnes et de cette opposition de relations qui distingue les personnes sans que rien ne distingue, sans que rien de non relatif ne puisse distinguer les personnes. Bien, j'appelle de mes voeux si... Si quelqu'un m'entend, un travail avec les orthodoxes. Je suis moi-même récemment allé en Roumanie, invité par des professeurs de théologie orthodoxe, et on a eu des discussions très intéressantes. Alors bon, je ne suis pas un spécialiste des relations avec les orthodoxes, évidemment, mais clairement, d'après ce que j'ai compris, certains, même nombreux, sont parmi les orthodoxes ceux qui souhaitent retrouver une unité, l'unité qui a été malheureusement perdue, et face au défi du christianisme par rapport face au laïcisme, face à l'islam aussi, je pense qu'il est plus que temps, plus qu'urgent que les chrétiens de l'Est, les chrétiens orthodoxes, deviennent des alliés de marques, non seulement des alliés, mais des frères. Ce sont des frères dont les sacrements, d'ailleurs, sont valides. Ils sont vraiment en prêtres. Et souvent, malheureusement, dans les dernières décennies, l'œcuménisme envers les protestants, qui, eux, n'ont pas le sacerdoce, n'ont pas les sacrements de la foi, l'œcuménisme envers les protestants, souvent à négliger un peu ou à abîmer les relations envers les orthodoxes. Et donc, c'est bien dommage. Bon, je ferme cette parenthèse et je reviens au catéchisme. Alors, question suivante, numéro 137. Pourquoi les missions du Fils et de l'Esprit sont-elles inséparables ? Dans la Trinité indivisible, le Fils et l'Esprit sont distincts, mais inséparables. En effet, du commencement à la fin des temps, quand le Père envoie son Fils, il envoie aussi son Esprit, qui nous unit au Christ par la foi, afin que nous puissions, comme fils adoptifs, appeler Dieu Père. L'Esprit est invisible, mais nous le connaissons par son action, lorsqu'il nous révèle le Verbe et qu'il agit dans l'Église. Alors, ça, c'est de la théologie de haut niveau, mais qui a des conséquences très, très pratiques. Donc, le Père envoie son Fils, du commencement à la fin des temps, donc il envoie son Fils agir dans le monde, mais il envoie aussi son Esprit, qui nous unit au Christ par la foi. Vous vous souvenez, cette idée sur laquelle j'ai longuement insisté dans plusieurs épisodes, selon laquelle l'idée de exitus reditus, c'est-à-dire que nous venons tous de Dieu par la création, le monde entier, et puis chacun des hommes, chacune des âmes, et que nous devons être réconciliés avec Dieu, puisque le péché nous a séparés de Dieu, le péché nous a éloignés de Dieu, et si Dieu envoie son Fils par l'incarnation, c'est pour, étant unis à lui, par la foi, nous réconcilier avec Dieu pour nous retrouver l'amitié perdue avec le Père. Alors, comment est-ce que Dieu nous unit au Christ par la foi, eh bien, c'est par le travail de son esprit. Voilà, c'est pour que nous puissions, comme fils adoptif, appeler Dieu Père. C'est l'esprit qui parle en nous. Alors, c'est évidemment mystérieux, c'est le mystère de la foi, mais ce qui nous unit, celui qui nous unit au Fils, voilà, ce n'est pas juste un principe, ce n'est pas juste un élément, mais c'est une personne, c'est l'esprit de Dieu qui vient en nous pour nous unir au Fils, pour nous réconcilier avec le Père. Et c'est cette triangulation, cette tripartition montre la perfection de Dieu. La perfection de Dieu qui ne se contente pas d'une dualité, mais qui s'accomplit dans la Trinité. L'Esprit est invisible, mais nous le connaissons par son action, lorsqu'il nous révèle le Verbe et qu'il agit dans l'Église. Alors, on le verra après, dans l'épisode suivant d'ailleurs, nous verrons comment l'Esprit agit dans l'Église, comment il a agi au début de l'Église, et puis comment il continue à agir dans l'Église. Mais avant cela, question 138, quels sont les vocables de l'Esprit-Saint? Alors, Esprit-Saint est le nom propre de la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Christ l'appelle aussi Esprit Paraclet. Esprit Paraclet, c'est-à-dire consolateur, avocat. Le Paraclitus, le Paraclet, c'est ça, c'est le consolateur ou l'avocat. Et il l'appelle aussi Esprit de vérité. Le Nouveau Testament l'appelle encore Esprit du Christ, Esprit du Seigneur, de Dieu, Esprit de gloire ou de la promesse. Donc, il y a différents noms qui sont utilisés dans la Sainte Écriture, Esprit-Saint, Saint-Esprit, ou tous les termes que je viens de signaler, de mentionner, mais qui désignent tous cette troisième personne de la Sainte Trinité. Ensuite, question 139, quels sont les symboles qui représentent le Saint-Esprit? Ils sont nombreux. L'eau vive qui jaillit du cœur transpercé du Christ et abreuve les baptisés. L'onction avec l'huile qui est le signe sacramentel de la confirmation. Le feu qui transforme ce qu'il touche. La nuée obscure ou lumineuse où se révèle la gloire divine. L'imposition des mains par laquelle l'Esprit est donné. La colombe qui descend sur le Christ et demeure sur lui au moment de son baptême. Alors on pourrait faire toute une catéchèse sur ces symboles qui représentent le Saint-Esprit. Je vous dis deux mots de chacune de ces, de chacun de ces éléments. L'eau vive qui jaillit du cœur transpercé du Christ et abreuve les baptisés. Alors vous vous souvenez quand au moment où le Christ meurt sur la croix, où il est mort, le centurion Saint Longin, dont la lance d'ailleurs est conservée dans la basilique Saint-Pierre à Rome, Saint Longin transperce de sa lance le cœur du Christ et il en sort du sang et de l'eau, qui est une eau vivante, une eau qui donne la vie, puisqu'elle symbolise évidemment l'eau du baptême qui jaillit du cœur du Christ. Donc, ce jaillissement du cœur du Christ, c'est, vous voyez, la fécondité de ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui s'épanche vers les hommes en les nourrissant de l'eau, comme on arrose une terre aride ou une plante pour qu'elle puisse grandir. Cette eau qui jaillit du côté du Christ, précisément parce qu'elle vient du cœur du Christ, elle est une image du Saint-Esprit. Alors c'est l'eau du baptême, évidemment, et c'est, on peut aussi d'une certaine façon, puisque coule du côté du Christ le sang et l'eau, on peut y voir une figure aussi de l'Eucharistie, avec l'eau et le vin mélangés, qui vont devenir le sang du Christ. Deuxième symbole du Saint-Esprit, l'onction avec l'huile, qui est le signe sacramentel de la confirmation. Alors, voilà, cette onction avec l'huile qu'on trouve dans différents... L'huile, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nourrit, ce qui apaise, ce qui rend plus souple, ce qui fortifie aussi, et ce qui aussi permet d'éviter d'être saisi par le mal, comme, vous savez, les athlètes grecs, il y a une... fameuse statue d'un athlète grec au milieu du Vatican, où les athlètes grecs se mettaient de l'huile sur le corps pour la lutte, pour que le lutteur en face, le combattant, ne puisse pas les saisir. Eh bien, il y a cet aspect aussi dans l'onction de l'huile. Alors, d'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué que dans le baptême, dans la forme catholique latine du baptême, eh bien, à la fin du baptême, on fait une onction d'huile. Alors, cette onction, ce n'est pas la confirmation, mais elle montre que cette onction d'huile, dans toute l'histoire de l'Église, dans la tradition liturgique de l'Église, allait avec le baptême, avec l'eau du baptême. Chez les chrétiens, chez les catholiques orientaux, et d'ailleurs aussi chez les orthodoxes, il n'y a pas cette onction d'huile liée au baptême, mais la confirmation, donc avec l'onction d'huile de la confirmation, est donnée immédiatement après le baptême. Chez nous, chez les latins, la confirmation est réservée comme sacrement du passage à l'âge adulte, de la maturité, et donc il y a, j'allais dire, une double onction d'huile, l'onction d'huile du baptême, qui n'est pas qui est simplement qui symbolise, qui signifie la perfection de la grâce baptismale, et puis après, dans un deuxième temps, reçoit la confirmation. Chez les orthodoxes ou chez les catholiques orientaux, eh bien, tout cela va ensemble, avec d'ailleurs la communion. Le jour du baptême, on donne symboliquement, évidemment, la communion à l'enfant qui vient d'être baptisé. Ce sont deux traditions tout à fait légitimes, qui sont tout à fait nobles et qui montrent que dans l'Église, il existe plusieurs traditions. C'est la même foi, c'est la même chose qui est dite, mais selon des modes différents. Et il y a cette grande liberté, justement, lorsque ces libertés sont fondées sur des traditions tout à fait reconnues, tout à fait honorables et très anciennes, elles doivent être respectées, évidemment. Alors, je disais, voilà, je reviens au symbole du Saint-Esprit, l'eau vive, l'onction de l'huile, qui est le signe sacramentel de la confirmation, qui est aussi utilisé pour le sacrement des malades. Ensuite, le feu, qui transforme ce qu'il touche. C'est vrai que le feu est un symbole de l'Esprit-Saint. Pourquoi ? Tout simplement à la Pentecôte. Vous vous souvenez, on en reparlera d'ailleurs, qu'au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les apôtres et la Sainte Vierge sous la forme de langue de feu. La forme de langue de feu. Alors pourquoi le feu ? Parce que le feu, c'est ce qui réchauffe déjà, ce qui permet de cuire les aliments pour les nourrir. Donc sans feu, c'est très difficile de se nourrir. Mais celui qui n'a pas de feu, il vit comme une bête sauvage. Il survit. Un homme sans feu et ne survit pas longtemps. Mais le feu est aussi ce qui purifie. Très souvent dans la Sainte Écriture, il y a cette idée que le feu doit purifier, même l'or, doit être brûlé, doit être mis au feu pour que les scories, les impuretés qui sont dedans disparaissent et que l'or soit purifié. Donc même les choses les plus nobles doivent sans cesse être purifiées au feu. Et donc c'est le rôle de l'Esprit Saint qui va transformer ce qu'il touche en le purifiant, en le rendant plus conforme à ce que Dieu en attend. Ensuite, la nuée, obscure ou lumineuse, où se révèle la gloire divine, cela c'est une référence à la nuée lumineuse qui guidait les Hébreux dans le désert. Vous savez, pendant les 40 ans où les Hébreux ont erré dans le désert, après avoir fui l'Égypte, après le passage de la mer Rouge. Et les Hébreux ne sont pas rentrés directement dans la terre promise, mais ils ont erré dans le désert parce que Dieu voulait éprouver, déjà les punir de leur infidélité, et puis éprouver leur confiance en Dieu. Et ils étaient guidés pendant la journée par une nuée lumineuse qui, sans cesse, qui montrait la présence de Dieu, qui montrait que Dieu était présent au milieu d'eux. Ensuite, un autre symbole du Saint-Esprit, l'imposition des mains par laquelle l'Esprit est donné. On le retrouve principalement dans le sacrement de l'ordre, pardon, lorsque un prêtre est ordonné, eh bien, l'évêque impose la main les mains sur lui pour signifier que le Saint-Esprit prend possession de la personne sur laquelle il impose les mains. Mais l'imposition des mains, c'est aussi ce qui est symbolisé par exemple par la claque que l'évêque donne aux confirmants. Ceux qui ont été confirmés parmi vous le savent, dans la cérémonie, il est prévu que celui qui est confirmé se prend une baffe par l'évêque. Alors, symbolique, hein, évidemment, mais qui signifie, évidemment, cette imposition des mains par laquelle le Saint-Esprit est donné. Comme je dis, on reviendra sur les sacrements, bien sûr, dans une prochaine saison, mais dans la saison prochaine, d'ailleurs, puisqu'on étudiera les sacrements dans la deuxième saison de ce commentaire du catéchisme. Et donc l'imposition des mains est symbolisée par cette baffe, cette claque liturgique symbolise l'imposition des mains par laquelle l'Esprit est donné. Et puis enfin, dernier élément, la colombe qui descend sur le Christ et demeure sur lui au moment de son baptême. Vous vous souvenez de l'épisode du baptême du Christ où Saint Jean-Baptiste, le précurseur, le cousin de Jésus, baptise, lui il est baptisé dans un baptême de pénitence, et il voit le Christ venir à lui, et il dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure, il y en a un parmi vous qui est bien plus grand que moi », et il le désigne, voici l'agneau de Dieu, l'agneau, comme je l'ai expliqué dans un épisode précédent, étant le symbole de la libération du peuple hébreu, donc de l'ouverture de la terre promise. Donc voici l'agneau de Dieu, et il baptise le Christ dans le Jourdain, et au moment du baptême du Christ, apparaît une colombe qui est une manifestation du Saint-Esprit, et puis on entend une voix dans le ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le ». Voilà une manifestation, une épiphanie de la Trinité, où les trois personnes sont réunies dans le monde, comme cela est arrivé de très rares moments. Voilà donc les symboles de l'Esprit-Saint, et on peut continuer donc cette étude du Saint-Esprit, la partie du catéchisme sur le Saint-Esprit, qui est très développée, c'est assez étonnant, mais c'est très, très intéressant, sans doute que le pape Benoît XVI a estimé, et à juste titre, que cet enseignement de la foi sur le Saint-Esprit méritait toute sa place et méritait d'être développé. Alors, question 140, que signifie « l'Esprit a parlé par les prophètes » ? Le terme « prophète » s'entend ici de ceux qui furent inspirés par l'Esprit-Saint, inspirés de l'Esprit-Saint, pour parler au nom de Dieu. L'Esprit porte les prophéties de l'Ancien Testament à leur plein accomplissement dans le Christ, dont le mystère se dévoile dans le Nouveau Testament. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que le Saint-Esprit agit dans l'Église et dans nos âmes et dans le monde sans arrêt. Dès l'Ancien Testament, c'est l'Esprit de Dieu, qui a inspiré les prophètes pour qu'ils parlent au nom de Dieu. C'est depuis toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit qui agissait ou qui agit dans le monde pour, en particulier, préparer l'accomplissement de ces prophéties dans le Christ, c'est-à-dire la venue de la seconde personne de la Trinité dans le monde, dans le mystère de l'incarnation. Et donc, finalement, on peut relire toute l'histoire du salut comme l'histoire de l'action de l'Esprit-Saint dans le monde. De la même façon que l'on peut relire, chacun d'entre nous, notre propre vie, en y voyant l'action de l'Esprit-Saint dans notre vie, par un tas de moyens différents. Mais il faut savoir relire nos propres existences, y compris nos errements et nos moments de doute ou de péché ou d'éloignement de Dieu, comme étant permis par l'Esprit-Saint pour pouvoir agir en nous. Il y a une comparaison que j'aime bien et que je vous laisse en guise de conclusion. J'avais entendu d'un évêque, un sermon de Pentecôte, où il disait le Saint-Esprit, c'est comme un GPS. Le Saint-Esprit, c'est comme un GPS, c'est cette petite voix qui nous dit tournez à gauche à la prochaine, faites 100 mètres sur la droite, ou alors parfois même qui nous dit faites demi-tour immédiatement, faites demi-tour immédiatement lorsqu'on est vraiment engagé dans une voie sans issue ou dans une voie dangereuse. Et donc cette petite voix qui sans arrêt s'adapte pour nous montrer le but que nous visons, c'est ce GPS, ce rôle de GPS spirituel que joue le Saint-Esprit. Alors justement, prions l'Esprit-Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église, pour mieux le connaître. Venez Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
J'ose le prédire, Chartres deviendra plus que jamais le centre de la dévotion à Marie en Occident. On y affluera comme autrefois de tous les points du monde, prophétisait le cardinal Pie en 1855. Et effectivement, après 100 km de marche, une immense colonne de 18 000 pèlerins est arrivée à Chartres ce lundi de Pentecôte pour assister à la messe célébrée dans la cathédrale par le cardinal Müller.
Oui, ils sont partis samedi à l'aube. Ils ont marché 3 jours. Des habitués catholiques traditionalistes et présents chaque année pour ce grand pèlerinage de Pentecôte, mais aussi des curieux, des convertis et des étrangers venus du bout du monde, partager un moment de foi et d'amitié. C'est l'association Notre-Dame de Chrétienté qui est à l'origine de ce miracle et nous recevons justement 2 de leurs membres ce matin. Anne-Lise Falicon, vous êtes porte-parole de Notre-Dame de Chrétienté et adjointe au pôle Tente dans la logistique du pèlerinage. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et Rémi Fontaine, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes journaliste, historien, vous êtes l'un des fondateurs du pèlerinage et vous racontez votre expérience dans votre ouvrage « Chartres t'appelle, une Pentecôte de chrétienté » qui vient de paraître aux éditions Via Romana. Donc, bonjour Rémi Fontaine, merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour témoigner de ces pèlerinages de Pentecôte. C'est donc Notre-Dame de Chrétienté qui les organise depuis 1983. Cette année marquait la 42e édition avec des chiffres records. Anne-Lise, vous faites partie de l'organisation du pèlerinage. Avant de revenir sur vos missions précises, quels sont les grands chiffres qu'il faut retenir cette année ?
Alors les grands chiffres de cette édition, c'est déjà que le pèlerinage est extrêmement jeune. La moyenne d'âge des chapitres adultes est de 23 ans et de l'ensemble du pèlerinage, lorsque l'on comprend les enfants, les adolescents, ça baisse à 20 ans. Ensuite, nous étions, comme vous le disiez, 18 000. Les chiffres finaux sortiront à la messe d'Action de Grâce dans quelques semaines. Il y avait plus de 400 religieux, donc prêtres, moines, moniales, séminaristes. Il y a eu environ 40 000 hosties qui ont été distribuées lors du pèlerinage. On était plus de 1 000 pèlerins bénévoles.
Dis donc, en fait, il y a tout un grand nombre effectivement des chiffres vraiment records. C'est la deuxième année donc consécutive que Notre-Dame de Chrétienté se voit contraint de restreindre ses inscriptions donc pour des soucis de logistique tellement les chiffres sont grands. Je me tourne vers vous justement, Rémi Fontaine, au moment où la France se déchristianise, que les églises se vident. Je pense aux communes rurales, mais pas que. On pense que les jeunes ont abandonné les lieux de culte, certains ferment, et en parallèle, il y a un peu cette démonstration de force presque paradoxale. 18 000 pèlerins, Anne-Lise vient de le dire, moyenne d'âge 20 ans, de Paris à Chartres, avec tous cette même fierté d'être chrétien. Comment vous expliquez un tel succès et cette victoire du retour à la tradition ?
C'est un petit miracle, je dirais, c'est le miracle de Chartres qui a beaucoup d'inspiration. J'ai l'occasion de les évoquer dans mon livre et je parle notamment de l'inspiration scout en citant en exergue le mot du Père Sevin. Il est toujours bon pour ne pas vieillir de se retremper dans l'esprit de ses origines. Bon. Il ajoutait, or notre esprit est un esprit de croisade, il y a la croix, hein. Ou bien nous n'y sommes plus. Évidemment, il s'agit d'une croisade spirituelle, non pas physique. Il s'agit de convertir. Et on parlait de la jeunesse du pèlerinage. L'âge a peut-être rajeuni un peu par rapport au début, mais c'est exactement la même jeunesse, la jeunesse de Dieu. C'est la même jeunesse qui marchait en 83 avec cette même volonté d'arriver à Chartres en priant avec ses pieds. Et puis de se convertir, c'est-à-dire d'arriver au-delà de Chartres. Chartres ou Tréa, ben, dans la communion des saints. En fait.
Il y a deux particularités au pèlerinage de Chartres qu'on peut noter, notamment sa forme extraordinaire, donc messe en latin, dos au peuple, et puis sa moyenne d'âge extrêmement jeune. Annelies, on pourrait avoir tendance à penser finalement que les deux pourraient être incompatibles. Or, ce n'est absolument pas le cas.
Non, non, tout à fait. Je pense que notre jeunesse, notre génération a eu un besoin d'absolu. Et le catéchisme traditionnel que ces jeunes pèlerins viennent chercher est la preuve, en fait, d'un besoin de règles, de quelque chose de strict et d'une élévation aussi. Parce qu'avec la messe en latin, où le prêtre est dos au peuple, il y a une verticalité. Nous sommes tous derrière le prêtre lors de la liturgie pour aller vers Dieu, tourner vers l'Occident, et vers Jésus, du coup.
Et dans cette histoire des armées quarantenaires, il y a trois piliers qui sont mis en avant par Notre-Dame de chrétienté, donc la tradition, la chrétienté et la mission. Qu'est-ce que ça signifie justement ces trois piliers pour ces pèlerins et pour Notre-Dame de chrétienté ?
Alors nos trois missions, c'est la mission par la tradition pour la chrétienté. Donc on peut les comparer à un grand et vieux chêne. Donc la tradition, ce sont les racines qui sont profondes et qui vont puiser en arrière dans les siècles. Après, il y a la chrétienté, c'est le tronc qui est droit. Et après, la mission, ce sont les branches et les ramifications qui vont loin et qui portent du fruit. Et on peut les relier aux vertus théologales. Du coup, la tradition, c'est la foi, la chrétienté, c'est l'espérance, et la mission, c'est la charité.
Très bien. Et donc, bah alors, on va poursuivre cette table ronde dans un instant, mais avant, place aux flèches d'actualité par Adèle Rosner.
Ligne droite.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable.
La table ronde.
Et Alexandre Caillé nous a rejoint. Vous le connaissez, chers auditeurs. Il est souvent venu sur notre matinale pour nous parler de son association SOS Calvaire. Bonjour, Alexandre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin. Vous avez justement marché 3 jours. Est-ce que vous êtes un habitué ou bien c'est une première pour vous ?
Alors, SOS Calvaire, c'est la troisième année qu'on participait en tant qu'association au pèlerinage de Chartres. Et alors moi, je n'ai pas marché 3 jours cette année, j'ai marché 1 jour et demi.
C'est déjà très bien.
Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais en fait, cette année, on avait 3 chapitres, donc deux chapitres adultes, et un chapitre famille. Et la particularité d'SOS Calvaire, c'est sa mission dans la France de restaurer et de poser des croix, des calvaires. Et donc, le chapitre adulte SOS Calvaire porte une croix d'une cinquantaine de kilos, qui le premier jour semble peser 20 kilos et le dernier 90. Et cette année, avec notre chapitre famille, on a également une toute petite croix, en fait, qui fait les mêmes dimensions que notre croix pèlerine d'adulte, mais qui est beaucoup plus fine dans sa section, et entourée d'une corde. Et en fait, les enfants ont aussi pu expérimenter le port de la croix pendant le pèlerinage. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de porter une croix ? Parce qu'en fait, c'est exactement la même intuition que le pèlerinage de Chartres. Chartres, c'est prier par les pieds. Nous, c'est prier par les pieds, mais avec ses bras aussi, en éprouvant physiquement ce qu'est le portement de la croix. Vous voyez, la quatrième dizaine des mystères douloureux, elle résonne beaucoup plus particulièrement pour nous, parce qu'on ne sait ce qu'est la croix qu'à partir du moment où on l'a portée. On a éprouvé dans sa chair la contraction du muscle qui permet une élévation spirituelle. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'SOS Calvaire porte une croix sur les routes de Chartres.
Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'année dernière, ou alors il y a 2 ans peut-être, vous aviez planté une croix, ou vous en aviez l'intention en tout cas. Est-ce que cette année, vous l'avez réitéré ? Comment ça se passe ?
Alors en fait, donc la première année, on a simplement porté la croix, une croix pèlerine. L'année suivante, on a à la fois porté une croix et en plus planté une sur le lieu des Courlis, me semble-t-il, et cette année, nous avons reposé une autre croix à Igny, donc au lieu de la première pose de Chartres. Alors, l'idée, c'est de jalonner la route de croix à la fois pour nous, pour les pèlerins. Qui vont passer devant, qui vont pouvoir se signer, qui vont pouvoir dire j'y étais, et aussi pour, ce sont des traces qui restent, et donc qui témoignent au-delà de nous, à la fois dans notre temps et dans des temps futurs, la foi de ceux qui les ont précédés.
Donc l'année prochaine, quand les pèlerins reprendront la route à la Pentecôte, ils pourront voir s'agenouiller devant cette croix posée par SOS Calvaire à Igny.
Exactement, et devant celle de Courlis aussi.
Et c'est devant celle de Courlis. Bah écoutez, merci beaucoup Alexandre Caillé pour ce témoignage. Écoutez, j'invite nos auditeurs à rejoindre votre chapitre SOS Calvaire. J'imagine que c'est possible, donc en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Il y a ces trois chapitres, c'est ça?
Exactement, oui. Deux adultes et un famille, c'est très possible.
Bon bah écoutez, vraiment merci beaucoup Alexandre Caillé. J'aimerais remonter maintenant aux origines du pèlerinage avec vous Rémi Fontaine. Notre-Dame de Chrétienté est la résurrection d'un vieux pèlerinage vers Chartres et l'œuvre, je vous cite, de laïcs chrétiens militants. À quoi doit-on sa création en 1983 et pourquoi aller vers Chartres?
Eh bien, nous avons voulu répondre, surtout à l'époque, hein, pour resituer un peu le contexte, à l'appel de Jean-Paul II, qui venait d'être élu pape en 78, qui avait dit « n'ayez pas peur ». Et Jean-Paul II venait d'un pays communiste, mais de la Pologne très catholique. Et son premier voyage, il avait réservé à la France, en interpellant notre nation, « France, qui est née de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Il avait aussi interpellé notre jeunesse en disant « jeune homme, lève-toi, jeune fille, lève-toi. » Et je me rappelle très bien ces fameuses paroles au Parc des Princes, « La permissivité morale ne rend pas heureux. » C'est applicable aujourd'hui. Et donc, nous avons voulu répondre à cet appel, d'autant plus que dans la même année, Bernard Anthony avait lancé le centre Henri et André Charlier, de deux grands convertis au catholicisme, ami de Peggy, précisément, le centre Charlier avait été lancé avec une volonté de reconquête spirituelle et d'amitié française. Et nous avons voulu donc répondre à la troisième université d'été qui avait lieu au Ménil-Saint-Loup, à l'appel de Jean-Paul II, en plaçant notre effort militant sous la protection de Notre-Dame, hein, en fils de France et en fils de l'Église. Et vous parliez tout à l'heure de la tradition. Je dois dire que nos pèlerins ne cherchent pas à être des pèlerins d'hier, pas plus que des pèlerins de demain. Ce sont vraiment des pèlerins d'aujourd'hui, c'est-à-dire des pèlerins de toujours. Pèlerin en latin, c'est peregrini. Hein. Peregrini, c'est étranger, étranger au monde, dans la mesure où l'esprit du monde est étranger à Dieu. Donc c'est pour ça que nous inscrivons très bien dans le thème de l'année sainte qui aura lieu en 2025 et qui est pèlerin d'espérance. Nous sommes des pèlerins de toujours en quête du royaume éternel. Hein, et c'est ce qui fait vraiment notre spécificité. Donc nous ne sommes pas des arriérés qui nostalgiques du passé, comme vraiment d'aujourd'hui. On le voit bien à la tenue de nos pèlerins, à leur joie qui communicative. Voilà, c'est ce que je voulais indiquer.
Vous parliez dans votre ouvrage l'étymologie aussi au tout début de la tradition. Vous parlez du latin ici, donc de tradere, de la transmission. On comprend donc que tradition et transmission sont liées. C'est quoi cette transmission qui vous tient tant à cœur, Rémi Fontaine?
Eh bien, oui, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Nous inscrivons dans une continuité historique. Nous revendiquons des inspirations qui vont de Saint-Louis à Peggy, en passant par les Charliers, hein, des laïcs précisément. Hein. Et donc, la tradition, justement, c'est transmettre. Nous ne prétendons pas innover, inventer quelque chose sous l'espèce d'une nouvelle Pentecôte. Non, nous sommes fidèles à nos anciens. Nous voulons cultiver la vertu de piété filiale. Et l'abbé Jean de Massia, qui a eu la gentillesse de préfacer mon ouvrage, parle de la fameuse formule de Saint Bernard de Chartres. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Hein. Et ça, un peu la tradition, c'est que nous faisons que transmettre. Évidemment, la foi est un don, mais qui passe par la transmission temporelle. Et c'est pour ça que vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance des laïcs. Nous pensons qu'il y a vraiment une grâce d'État attachée au laïcat chrétien. Du reste, c'était ce qui était voulu par le Concile Vatican II, hein, promouvoir le laïcat chrétien avec les baptisés laïcs, parce que cette grâce d'État est liée à la jeunesse, comme disait André Charlier, mais pas seulement à la jeunesse, elle est liée aussi aux familles et particulièrement aux parents qui ont la charge temporelle, on peut dire, de transmettre la foi à leurs enfants comme eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents. Et même si nous ne faisons pas partie en tant que laïcs de l'Église enseignante, nous sommes redevables, nous avons cette grâce d'État, et les organisateurs du pèlerinage ont usé abondamment de ce devoir élémentaire, en s'inspirant, d'autres l'avaient fait d'ailleurs avant eux, à l'occasion de la crise de l'Église, je pense notamment aux scouts précisément, aux scouts d'Europe par exemple, au MJCF, le mouvement de la jeunesse catholique de France, qui avec l'aide d'aumôniers, ont su justement agir en tant que laïcs, comme le demande le Concile Vatican II.
Et moi j'aimerais revenir sur le rite, donc le rite de la messe traditionnelle, qui ne semble absolument pas rebuter les curieux, puisqu'il y a des catholiques aussi issus de l'Église moderne qui rejoignent par centaines le pèlerinage. Donc Annelies, je me tourne vers vous, d'autres viennent aussi du monde entier, des pèlerins du monde entier, il y a des pèlerinages qui se sont même créés en écho donc à celui de Notre-Dame de Chrétienté, en Argentine, en Australie, au Rwanda. Ça montre quand même un succès évident jusqu'à l'international, mais que cherchent en fait ces pèlerins ?
Ils cherchent une transcendance, justement, comme je disais tout à l'heure, un désir d'aller vers Dieu, un désir de catéchisme plus carré. Et oui, en effet, il n'y a pas que des catholiques traditionnalistes, il y en a environ 55%. Sinon, il y a 15% de pèlerins qui vont à la messe en rite Paul VI le dimanche, et 30% qui font les deux en fonction de leur programme. Donc, et pour les étrangers, on a en effet 15 nationalités différentes. Oui, il y a pas mal de pèlerinages, même en Espagne. On a Nuestra Señora de la Cristiandad qui s'est complètement inspirée de notre pèlerinage et qui fait sur les routes de la Reconquista un pèlerinage en juillet traditionnaliste comme nous.
Donc ça a inspiré des pèlerinages à travers le monde, et donc on comprend qu'ils cherchent tous une élévation spirituelle qu'ils ne retrouvent peut-être pas ailleurs. On va continuer de s'axer sur cet aspect vraiment plus spirituel du pèlerinage avec vous, Rémi Fontaine, avant de continuer sur la logistique avec Annelies. Donc ce sont des échanges, des moments de camaraderie, mais aussi des chapelets, des méditations. Cette année, le thème du pèlerinage, c'était les fins dernières. Alors d'abord, de quoi s'agit-il pour ceux qui nous écoutent ? Et puis, quel a été le nouveau thème annoncé cette année à Chartres pour l'année prochaine ?
Alors le nouveau thème, je ne le connais pas, enfin je crois que l'abbé de Massia l'a annoncé à la messe de Chartres, mais c'est sur le règne du Christ, hein, je crois, pour qu'il règne. Mais le thème de cette année, c'était les fins dernières, j'en parlais tout à l'heure, un pèlerin de l'espérance. L'espérance, c'est l'espérance du ciel, parce que les fins dernières, c'est le paradis, le royaume éternel, mais ça peut être aussi l'enfer ou le purgatoire. J'aime bien la figure du pèlerinage de chrétienté, qui s'inscrit encore une fois dans une tradition qui est antérieure à lui, avec Peggy notamment, mais j'aime à dire que le pèlerinage de chrétienté, c'est un vaisseau marial qui a ses ancres dans le ciel par la pénitence et par la prière. C'est la nouvelle chanson de Hugo Frey, c'est un fameux trois-mâts, comme un oiseau. Ce fameux trois-mâts, il a trois grandes voiles, on les a citées, qui s'appellent la tradition, la chrétienté, la mission. Et ce n'est pas ces trois voiles ensemble qui font avancer le navire, c'est évidemment l'esprit, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui souffle sur elle, car ce sont des médiations opportunes et nécessaires, surtout dans un autre temps. Et si Dieu veut, toujours droit devant, comme dit la chanson, nous irons jusqu'à ce royaume éternel. Et nous sommes fiers, malgré nos péchés, nos faiblesses, nous ne faisons pas du triomphalisme, nous connaissons nos défauts, nous ne prétendons pas être meilleurs que les autres, mais nous sommes fiers d'être non pas matelots dans ce vaisseau marial, mais d'être des pèlerins, malgré leurs faiblesses, qui marchons, qui souffrons, qui voulons justement répondre aux demandes de la Sainte Vierge à des enfants lors de ces apparitions. Je pense à Bernadette, à Lucie, aux enfants de la Salette. Nous essayons d'offrir nos souffrances pour la rédemption de la France, et puis pour nous convertir nous-mêmes, mais comme on le sait, c'est la petite Thérèse, je crois, qui disait on ne se sauve pas tout seul, on se sauve en grappe.
C'est des mots, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre, rédemption, pénitence, purgatoire. Dans votre ouvrage, vous listez les différents thèmes depuis 1983. En 1985, par exemple, il est axé sur la famille, avenir de la chrétienté. Et en 86, en pleine guerre civile au Liban, sur le Liban et les chrétiens persécutés. Quel est le thème qui vous aurait le plus marqué? Et comment se fait le choix d'un thème de pèlerinage? Qui choisit les thèmes et pourquoi? Est-ce que c'est selon justement les actualités? Qu'est-ce qui... Voilà.
Le thème qui m'a le plus marqué, c'est évidemment le premier, qui est pour le renouveau de la jeunesse spirituelle de France. Mais c'est vrai que la famille a un rôle très important, et ce rôle de la famille, Max Champoiseau, par exemple, qui était très, très attaché, est très important pour nous. La famille signifie vraiment une réalité première, hein. Église domestique, hein, comme dit l'Église. Les thèmes, ben, ils sont choisis par l'état-major, entre guillemets, du pèlerinage, c'est-à-dire le responsable, le président, comme on l'appelle aujourd'hui, ou l'aumônier général, et décide en fonction de l'actualité, en essayant toujours de rattacher ce thème à l'aspect spirituel, bien sûr, car c'est la réforme intérieure, hein, mais aussi à cette finalité propre du pèlerinage qui est la chrétienté, donc notre action dans la cité, hein, avec notre attachement à la doctrine sociale de l'Église, et particulièrement à la doctrine sociale du Christ roi, qui a été développée dans l'encyclique Quas Primas de Pie XI, et qui insiste justement sur ce rayonnement social des chrétiens dans la société, car si on sait très bien qu'on n'est plus dans une chrétienté aujourd'hui, nous avons besoin d'espace pour respirer, ce que Benoît XVI appelait des oasis de chrétienté ou des îlots de chrétienté, parce que notre théologie politique, pour reprendre un mot qu'a employé le président de la conférence épiscopale, Mgr de Moulins-Beaufort, c'est pas très compliqué, c'est la parabole évangélique du terrain de la semence, c'est-à-dire que pour la semence puisse prendre, elle doit trouver un terrain propice, une culture propice, et si elle ne trouve pas cette culture, si elle trouve comme aujourd'hui une culture de mort, il faut bien qu'elle trouve une espèce de contre-culture, c'est Benoît XVI lui-même qui en parlait, et c'est ce qu'il appelait précisément ces îlots de chrétienté, et c'est ce que nous essayons de faire à notre modeste niveau dans le pèlerinage de chrétienté.
Eh bien, justement, le pèlerinage, enfin, il y a quand même, donc on marche, et il faut une certaine organisation, je pense, pour gérer ces 18 000 pèlerins, un tel nombre. Et donc, non seulement il faut une organisation non seulement sur place, mais aussi en amont. Et Annelies, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents pôles organisés pour mener à bien ces 3 jours?
Bien sûr. Excusez-moi, j'ai un peu
le pèlerinage, forcément, a aussi ses désavantages pour la voix.
Exactement. Imaginez une entreprise de bénévoles qui va monter une mini-ville durant 3 jours pour accueillir environ 18 000 personnes. Du coup, il y a des kilomètres de tuyaux qui sont déroulés pour acheminer l'eau pour que les pèlerins puissent se laver le soir. Il y a environ 1 hectare de tentes qui est monté sur le bivouac à la fin pour les couchages, par la logistique, hein, pas par les pèlerins, on est bien d'accord, les tentes de la log, pour les cuisines, que ce soit les lavabos. C'est absolument énorme. Il y a aussi le service d'ordre qui sécurise la colonne de pèlerins sur tout le long de la route. Il y a plusieurs cuisines aussi, il y a la cuisine pour les pèlerins, la cuisine pour le clergé, et aussi une cuisine pour la logistique, qui font toutes des travaux extraordinaires. On a 125 tonnes d'eau qui sont acheminées sur le pèlerinage pour
être distribuées aux pèlerins sur la route, on imagine.
Exactement, qui en ont bien besoin.
Oui, d'accord, donc il y a toute cette organisation. Et vous, justement, vous parliez des tentes et des hectares de tentes, un hectare d'accord, de tentes posées par la logistique. Alors justement, vous faites partie, vous, de ce pôle-là des tentes. Pour vous, ce n'est pas 3 jours, mais même 5 jours d'engagement. Hein. Vous pourrez en parler. Est-ce que nos auditeurs peuvent déjà rejoindre vos équipes l'année prochaine? Comment ça marche? Et en quoi consiste une journée type dans le pôle tente?
Bien sûr. Alors, les nouveaux auditeurs peuvent bien sûr rejoindre mon service en logistique, mais tous les autres services. Pour nous rejoindre, on s'inscrit de la même façon que pour s'inscrire en tant que pèlerin, sauf que lorsque vous choisissez votre région et votre chapitre, en fait, vous choisissez la partie logistique et après le service dans lequel vous voulez servir. Ça peut être les sacs, ça peut être la propreté, ça peut être les tentes dans mon équipe. Il y a de nombreux services qui peuvent être adaptés à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de, physique de marcher ou qui veulent rendre service à un pèlerinage qui leur a peut-être beaucoup apporté parce qu'ils l'ont souvent fait en marchant.
Et cette année, avec l'explosion des inscrits, est-ce que ça a engendré quelque chose pour la logistique? Est-ce que ça a changé quelque chose que voilà, 2000 pèlerins de plus que l'année passée et des milliers d'autres que les années précédentes? Qu'est-ce que ça a pu engendrer?
Ça a engendré beaucoup d'achats de matériel. On a plus de tentes pour, dans mon service que les années précédentes et on aura certainement encore plus l'année prochaine et les années suivantes. Et du coup, c'est vrai que le service de la logistique cette année a beaucoup grossi. On a beaucoup plus de pèlerins bénévoles que les années précédentes, et ce qui permet en fait d'assurer la pérennité de notre service et du pèlerinage pour que tout soit fini à temps quand les pèlerins fatigués qui n'ont pas conscience de ce qui se prépare en amont, que tout se déroule correctement quand ils arrivent le soir.
Oui, c'est impressionnant.
Et puis quel est le prochain rendez-vous de Notre-Dame de Chrétienté?
Alors il y a la messe d'action de grâce le jeudi 30 mai à 19h30 à l'église Saint-Odile à Paris. C'est le prochain rendez-vous de Notre-Dame de Chrétienté et j'invite vos auditeurs à nous rejoindre.
Et donc cette messe d'action de grâce rassemblera donc les pèlerins, ceux qui veulent, c'est tout le monde peut venir.
C'est ça, les pèlerins, les amis du pèlerinage, les curieux qui veulent découvrir éventuellement la messe en latin, pour qui ce serait une première, elle sera célébrée par notre aumônier général, l'abbé de Massia.
L'abbé de Massia qui justement a préfacé cet ouvrage de Rémy Fontaine, hein, Chartres t'appelle, une Pentecôte de chrétienté. Un dernier mot ensemble, Rémy Fontaine. Cette année, donc pour la première fois, vous l'avez forcément vu, la messe du dimanche de Pentecôte était retransmise en direct dans l'émission Enquête d'esprit de nos confrères de CNews. Donc malgré la menace du motu proprio dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage et les restrictions de la messe tridentine, on peut garder espoir que la hiérarchie de l'Église arrive à terme à juger peut-être positivement l'arbre par les fruits qu'il porte?
Oui, oui, ben c'est notre espérance. Nous avions été ravis, effectivement, par le motu proprio du pape précédent, le Suborum Pontificum, qui rendait à la messe traditionnelle toute sa place, sa liberté totale, et qui permettait aux laïcs que nous sommes, aux catholique traditionnel, de faire l'expérience de la tradition qui va aussi avec l'expérience de la chrétienté. Je pense qu'il ne faut pas rejeter ce passé et à notre place, nous essayons de maintenir ce flambeau, des fois avec la réticence de la hiérarchie, c'était le cas au début, c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais je pense que l'histoire montrera que où la Providence montrera que notre résistance était peut-être nécessaire, mais nous la faisons vraiment dans la soumission à l'Église et en fils de l'Église.
Ouais, merci Rémy Fontaine, on va finir sur ces quelques mots. Vous êtes l'auteur, je rappelle, de Chartres t'appelle aux éditions Via Romana. J'invite nos auditeurs à se procurer cet ouvrage. Je vous remercie Anne-Lise Falicon, vous êtes donc porte-parole de cette association Notre-Dame de Chrétienté, adjointe au pôle tente. J'invite vraiment nos auditeurs à soit rejoindre les colonnes l'année prochaine, soit rejoindre la logistique qui a tant besoin. J'invite aussi nos auditeurs à rejoindre SOS Calvaire, ce chapitre quand même assez impressionnant franchement, qui porte une croix, qui en pose, qui parsème ses routes de France. Merci Alexandre Caillé pour votre témoignage et puis à très bientôt.
Ligne droite.
Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose, à chaque épisode, de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. Épisode 24, l'action de l'Esprit-Saint. Nous avons donc vu la semaine dernière comment le Saint-Esprit, la croyance en l'Esprit-Saint, la troisième personne de la Trinité, est une vérité fondamentale de la foi, et comment le Saint-Esprit a agi dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, en particulier en parlant à travers les prophètes pour annoncer le Christ. Nous continuons maintenant cette histoire de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le monde, dans l'univers, dans l'histoire des hommes, avec cette question 141, où le catéchisme demande quelle est l'action de l'Esprit en Jean-Baptiste. L'Esprit remplit Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui, sous son action, est envoyé pour préparer un peuple au Seigneur et pour annoncer la venue du Christ, le Fils de Dieu, celui sur lequel il a vu descendre et demeurer l'Esprit, celui qui baptise dans l'Esprit. Alors il est intéressant de noter cette place particulière, en effet, du Saint-Esprit dans l'œuvre de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est un saint très intéressant puisqu'il est à la fois un saint du Nouveau Testament puisqu'il a connu le Christ. Il meurt, alors évidemment il meurt avant le Christ, mais il a connu personnellement le Christ puisqu'il est son cousin, il l'a baptisé, il a 6 mois de plus que lui, puisqu'il est l'enfant de la cousine Élisabeth qui a été voulu par Dieu, donné par Dieu à Élisabeth alors qu'elle était déjà avancée en âge, une 60aine d'années, pour prouver à la Vierge Marie, sa cousine, que la promesse qu'elle enfanterait était bien réelle et que Dieu tenait ses promesses. Donc Saint Jean-Baptiste a connu le Seigneur, il a connu le Christ, mais il reste un prophète de l'Ancien Testament, dans le sens où il est né avant le Christ, et son rôle, on l'appelle le précurseur, il est celui qui vient préparer les chemins du Seigneur, celui qui vient, une voix qui crie dans le désert et qui vient préparer les sentiers, selon les paroles du prophète Isaïe, si je ne me trompe pas. Donc il vient réaliser cette œuvre. Peut-être que vous avez en tête le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, ce qu'on appelle le prologue du 4e évangile, et qui annonce, in principio et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Donc au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et Dieu n'a rien fait sans que cela ait été fait par le Verbe. C'est ce qu'on appelle le dernier évangile, puisque on le prêtre le lit chaque jour à la messe, à la fin de la messe. Mais pourquoi je parle de ce dernier évangile? Parce que il est question, justement, dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, il est question du précurseur de Saint Jean-Baptiste, celui qui a été envoyé pour préparer la voie du Seigneur avant que Dieu ne vienne lui-même en personne, ou qu'il envoie son fils qui est lui-même Dieu. Vous l'avez compris, vous avez étudié le mystère de la Trinité. Alors, je disais, c'est très intéressant de noter ce rôle de l'Esprit-Saint dans l'action de Saint Jean-Baptiste et dans cette préparation immédiate, dans cette annonce immédiate de la venue du Christ. On peut dire d'une certaine façon, je vous invite à interpréter peut-être cela dans ce sens, que le Saint-Esprit s'occupe des détails. Le Saint-Esprit d'ailleurs agit dans notre vie en nous donnant des signes, et des signes simples. C'est une question sur laquelle on aura l'occasion de revenir sûrement, mais vous savez, souvent les gens me disent, mais est-ce que c'est Dieu qui agit dans ma vie? Comment entendre la volonté de Dieu? Eh bien, Dieu agit par des choses de la vie quotidienne, par des paroles que l'on entend, par les gens que l'on rencontre, par les événements qui nous arrivent. Et je crois que c'est vraiment, il ne faut pas s'attendre d'ailleurs à voir des choses incroyables, à voir des choses surnaturelles, à entendre des voix qui vont vous dire ce que Dieu attend de vous. Évidemment, ça peut arriver. Sainte Jeanne d'Arc elle a entendu l'archange Saint-Michel, etc. Mais ça reste très 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 rare, et ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. Dieu agit par les signes de notre vie la plus basique, la plus simple, la plus évidente. Vous voyez, par exemple, on vous fait une proposition de travail alors que vous ne vous y attendiez pas. Eh bien, vous pouvez voir là la volonté de Dieu. Ou alors, quelqu'un, voilà, vous allez à la messe le dimanche et vous entendez, vous écoutez déjà, c'est une première étape, l'homélie du prêtre, et vous entendez une phrase qui vous touche. Eh bien, pourquoi cette phrase vous a touché? Sûrement parce que l'Esprit Saint a voulu vous parler à ce moment. Et donc Saint Jean-Baptiste, il est le précurseur dans ce sens où évidemment il est un homme, alors il vit dans le désert, il se nourrit de peu de choses, il est ce qu'on appelle un Nazaréen ou Naziréen. C'était ces ermites de l'Ancien Testament qui faisaient vœu de célibat, de chasteté, et qui se contentaient dans le désert de manger des sauterelles et qui s'habillaient simplement d'une peau de bête. Donc ils avaient une vie érémitique vraiment très, très radicale. Et c'est d'ailleurs très intéressant. C'est dans notre vie, c'est la même chose. C'est parce que nous menons une vie chrétienne, parce que on va à la messe, parce qu'on se confesse régulièrement, parce qu'on fait des sacrifices, parce qu'on prie chaque jour, qu'alors Dieu se laisse entendre dans notre vie. Là encore, souvent, si on me dit « oui, comment savoir ce que Dieu attend de moi ?» Eh bien, la première chose à faire, c'est simplement de prier, d'aller à la messe, et Dieu vous parlera dans la messe. Vous parlera, quand vous assisterez à la messe ou une adoration eucharistique, eh bien, il vous donnera des inspirations. Évidemment, ce ne seront pas des voix que vous entendrez, hein, il ne faut pas chercher à entendre la voix de Dieu, parce que déjà, Dieu n'a pas de voix humaine. Et Dieu se révèle donc dans les choses visible d'abord. C'est très rare que Dieu utilise les choses surnaturelles, les choses qui dépassent la loi de la nature, les lois de la nature que lui-même a instituées. Alors, voilà l'action du Saint-Esprit en Saint Jean-Baptiste. Question suivante, quelle est l'œuvre de l'Esprit en Marie ? C'est très intéressant de voir voilà comment on peut examiner dans ces personnages, c'est le rôle des saints. D'ailleurs, on pourrait faire quelle est l'œuvre du Saint-Esprit en Saint Vincent de Paul, Saint François d'Assise, et même dans les saints modernes, en Carlo Acutis. Finalement, ce qui fait un saint, c'est celui qui dit, comme Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Et donc c'est celui qui est saint, et ça doit être le but de chacune de notre vie, bien sûr, chacune de nos vies, d'être saint, c'est-à-dire de vivre conformément en toute chose, à tout instant, et en toute circonstance, de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Et donc finalement le saint, c'est celui qui a réussi qui a entendu, qui a suivi l'appel de l'Esprit-Saint, quelle qu'ait été la radicalité de cet appel. Et donc, on pourrait faire des portraits de chacun des saints de l'histoire du christianisme en se demandant quelle a été l'action de l'Esprit Saint en tel ou tel saint. Alors ici, quelle est l'œuvre de l'Esprit en Marie? En Marie, le Saint-Esprit porte à son achèvement toutes les attentes de la venue du Christ et sa préparation dans l'Ancien Testament. D'une manière unique, il la remplit de grâce et rend féconde sa virginité, pour donner naissance dans la chair au Fils de Dieu. Il fait d'elle la mère du Christ total, c'est-à-dire du Christ tête et de l'Église son corps. Marie est présente au milieu des 12 le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit inaugure les derniers temps avec la manifestation de l'Église. Alors, on a ici, d'une certaine façon, un résumé, peut-être, de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire du salut, de l'économie du salut, en tant qu'elle se joue, qu'elle se réunit en la personne de la très sainte Vierge Marie. C'est vrai que la Sainte Vierge, elle est l'achèvement de toutes les attentes de l'Ancien Testament. Elle est le dernier point, la touche finale, la cerise sur le gâteau, j'allais dire, avec beaucoup de respect. Elle est vraiment la touche finale, comme un peintre qui met un dernier trait d'or dans son tableau, parce que elle achève toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la venue du Christ. Et on peut dire de certaine façon qu'elle l'achève dans le sens où elle en est l'accomplissement, c'est-à-dire que finalement, peut-être que toute l'histoire de l'humanité avait pour but l'existence de la Vierge Marie qui allait donner naissance à Dieu, rien moins que cela. Devenir mère de Dieu, c'est une chose qui sonne comme quelque chose de normal pour les chrétiens, mais si on y réfléchit 5 minutes, qu'une femme donne naissance, évidemment dans la nature humaine, au Dieu éternel, eh bien c'est une folie pour les païens, comme dit saint Paul. Donc la Sainte Vierge est l'achèvement de tout l'Ancien Testament, et elle est pleine de grâce. C'est Dieu qui entre dans le monde par la très sainte Vierge Marie. Donc elle est l'achèvement de l'Ancien Testament, elle est la plénitude de la présence de Dieu pendant sa vie terrestre, et elle est le début du Christ total, c'est-à-dire des derniers temps, puisque le Christ désormais vit par son Église, dans son Église. On y viendra la prochaine fois, puisque la prochaine fois on parlera de l'Église. Mais l'Église, c'est le corps du Christ total, le corps mystique du Christ, c'est-à-dire celui dont il est la tête, et tous les chrétiens sont les membres. Et donc, la Sainte Vierge est comme vraiment le gond, le, le, le cardo, j'allais dire en latin, la vertu cardinale, la personne cardinale, celle qui fait le lien entre tout l'Ancien Testament qui s'achève en elle et qui donne naissance au Christ, donc donne naissance au régime de l'Ancien, du Nouveau Testament avec l'Église. On pourrait méditer sur la vie de la Sainte Vierge, bien sûr, pendant des années et des années, pendant des milliers de pages, comme l'ont fait beaucoup de grands saints, évidemment, dans toute l'histoire de l'Église. Cette plénitude de la grâce, d'ailleurs, c'est pour ça que l'ange lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Cette plénitude de la grâce, c'est parce que elle ne reçoit pas comme nous une grâce participée, la vie divine en partie, comme on la reçoit au baptême, dans chacun des sacrements, mais elle reçoit l'auteur de la grâce, elle reçoit celui qui est la grâce en plénitude, elle reçoit elle-même, elle reçoit Dieu lui-même. Donc elle est remplie de la grâce divine. La grâce étant cette gratuité de Dieu qui dépasse tous nos critères humains. Donc, vous voyez comment le Saint-Esprit, finalement, réalise sa mission, réalise son œuvre dans les personnes de l'Ancien Testament, en Saint Jean-Baptiste, et puis en plénitude, en la Très Sainte Vierge Marie elle-même. Alors, voilà, une fois que la Sainte Vierge a réalisé son œuvre de donner Dieu au monde, ce qui fait d'elle la mère de Dieu, question suivante, quel rapport y a-t-il entre l'Esprit et le Christ Jésus dans sa mission terrestre ? Donc on examine maintenant quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans ce que le Christ lui-même a réalisé. Depuis son incarnation, répond le catéchisme, le Fils de Dieu est consacré Messie dans son humanité, par l'onction de l'Esprit. Il révèle l'Esprit dans son enseignement, accomplissant la promesse faite au Père, et il le communique à l'Église naissante en soufflant sur les apôtres après la résurrection. C'est que on pourrait se demander si, puisque Dieu vient dans le monde comme seconde personne de la Trinité, il envoie son Fils, il vient lui-même sous la forme de la seconde personne de la Trinité, quel est le rôle de l'Esprit Saint ? Est-ce que ce serait pas un peu supplémentaire, surérogatoire, un peu inutile ? Eh bien, non, tout au contraire, ce qu'on lit ici, c'est que, au contraire, le Christ est envoyé par Dieu le Père pour réaliser l'œuvre de l'Esprit. Donc, bien sûr, l'Esprit est la troisième personne, mais il n'y a pas de hiérarchie, et le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont égaux en tout. Et donc le Père est celui qui envoie, le Fils est celui qui s'incarne et donc qui réalise l'œuvre du Père. Mais cette œuvre du Père, c'est l'Esprit qui se révèle. Finalement, lorsque le Christ nous enseigne, il nous révèle l'Esprit dans son enseignement. Et il accomplit tout ce qui avait été annoncé, et cette annonce, on l'avait vu la dernière fois, je le répétais tout à l'heure, cette annonce, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint, et l'Église naissante, qui naît à la Pentecôte, comme on va le voir maintenant, et c'est déjà aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, évidemment, partout où le Christ agit, c'est l'Esprit-Saint qui agit. Toute action de Dieu, de toute façon, ad extra, donc en dehors des relations trinitaires, internes à la Trinité, toute action de Dieu dans le monde est toujours une action commune aux trois personnes de la Trinité. Alors, même s'il n'y a que la seconde personne qui s'incarne, eh bien c'est une action commune à la Trinité. Question suivante, 144, qu'est-il arrivé à la Pentecôte ? 50 jours après sa résurrection, à la Pentecôte, Jésus-Christ glorifié a répandu l'Esprit à profusion et il l'a manifesté comme personne divine, de sorte que la Trinité Sainte est pleinement révélée. La mission du Christ et de l'Esprit devient la mission de l'Église, envoyée pour annoncer et pour répandre le mystère de la communion trinitaire. Donc là encore, on voit que finalement, toute l'œuvre de l'Église, toute l'œuvre des apôtres depuis la Pentecôte, cette effusion n'est rien d'autre qu'une effusion de l'Esprit, de sorte que la Trinité Sainte est pleinement révélée. Voilà. Donc c'est vrai que le Saint-Esprit n'est révélé de façon plénière, de façon entière et explicite, que dans le Nouveau Testament. On a déjà parlé, quand on a parlé de la Trinité, il y a les épiphanies trinitaires, ou les manifestations de la Trinité dans l'Ancien Testament, que ce soit par le triple Sanctus de la vision d'Ézéchiel ou de la vision d'Isaïe, pardon, au chapitre 6, oui, dans le temple, que ce soit dans le pluriel des personnes divines dans la Genèse, que ce soit, par exemple, le chêne de Mambré, où il y a un homme qui s'approche, et en fait, ils sont trois. Donc, il y a des apparitions trinitaires, des manifestations de la Trinité dans l'Ancien Testament. Mais seul le Nouveau Testament, le Christ, nous révèle dans le Nouveau Testament la réalité de cette Trinité des personnes en Dieu. Et donc, la Trinité est pleinement révélée au moment de la Pentecôte, qui est évidemment aussi une œuvre du Saint-Esprit, pardon, une manifestation du Saint-Esprit, ce qu'on appelle une mission du Saint-Esprit. Donc la mission du Christ et de l'Esprit devient la mission de l'Église, envoyée pour annoncer et pour répandre le mystère de la communion trinitaire. On peut dire, parce que cet épisode est peut-être un peu rude pour certains, un peu théologique et un peu profond. On peut dire que c'est la partie mystique, j'allais dire, de notre vie chrétienne. Ouais, notre vie chrétienne, évidemment, consiste à se former, à connaître la foi, mais aussi à la vivre intérieurement. Vous voyez, si c'est l'œuvre de la charité, évidemment, si j'avais toute la science et que je n'avais pas la charité, je serais comme une cymbale retentissante. Il est important de se former, de connaître la foi. Et si vous en êtes là à écouter ce 24e épisode, c'est que vous êtes déjà bien avancé, donc je vous félicite. Mais il faut aussi que cet enseignement nous dise quelque chose à nous en personne, nous fasse vivre personnellement et suscite en nous un amour de Dieu vivant, valeureux, brûlant. Et ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on prie, comme vous l'avez remarqué, à la fin de chaque épisode, cette prière à l'Esprit-Saint. On l'a fait aussi au début des cours, que ce soit au séminaire ou à l'université ici à Rome. On prie toujours le Saint-Esprit pour qu'il remplisse le cœur des fidèles, pour qu'il allume, comme on dit dans la prière, comme on le dira tout à l'heure, allumez en eux, en nous, le feu de votre amour. Le Saint-Esprit, c'est ce déclic mystique qui embrase ce qui n'était qu'une théorie, dit de façon un peu imagée. Vous voyez, c'est ce qui se passe à la Pentecôte. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit intervient sous forme de langue de feu, de flamme, parce que il vient mettre le feu au monde, faire brûler d'un feu spirituel, bien sûr, le feu de la charité, le feu de l'amour. Quand on aime quelqu'un, quelque chose, eh bien on est excité, on a le cœur qui se met à battre, on a les joues qui deviennent rouges. Il faudrait que lorsqu'on parle de Dieu, lorsque l'on vit cette amitié avec Dieu, eh bien qu'on ait la même passion. Évidemment, il ne s'agit pas que ce soit une passion corporelle, mais évidemment une passion de l'âme, une vie de l'âme, un surcroît de vie, cette flamme intérieure qui me fait vivre, qui me fait brûler d'amour, cœur brûlant d'amour, comme le cœur du Christ lui-même, ce cœur qui a tant aimé les hommes, comme on le représente le Sacré-Cœur comme un cœur brûlant. Eh bien, donc la mission de l'Esprit, finalement, dans la vie de l'Église, comme on va le voir maintenant, mais aussi dans notre propre vie, c'est exactement ça, c'est de donner cette flamme intérieure de la charité, de l'amour à tout l'enseignement que le Christ est venu nous révéler. Alors, précisément, pour terminer, question 145, quelle est l'action de l'Esprit dans l'Église ? L'Esprit édifie, anime et sanctifie l'Église. Esprit d'amour, il restaure chez les baptisés la ressemblance divine perdue à cause du péché et il les fait vivre dans le Christ de la vie même de la Sainte Trinité. Il les envoie témoigner de la vérité du Christ et il les établit dans leurs fonctions réciproques afin que tous portent le fruit de l'Esprit. Alors nous étudierons la hiérarchie de l'Église, le rôle de chacun, des consacrés, des prêtres, des laïcs, etc. Lorsque on va étudier dans le prochain chapitre de prochaine affirmation du credo, je crois, à la Sainte Église catholique, on va étudier ça assez en détail, mais dès maintenant, cette conclusion sur le rôle du Saint-Esprit montre bien que l'Église sait la présence de l'Esprit dans le monde, et c'est l'Esprit Saint qui anime, qui donne son âme, donc qui donne son mouvement, qui donne sa vie, et qui sanctifie l'Église. Il n'y a aucune sanctification qui ne passe par le Saint-Esprit. Voilà, la grâce que nous recevons, la grâce du baptême, la grâce des sacrements, c'est toujours une œuvre de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit qui vient agir dans notre âme et qui vient faire vivre notre âme, soit lui redonner la vie si on l'avait perdue, ou vivifier, augmenter la potentialité de vie spirituelle, de vie surnaturelle dans nos âmes. Et puis c'est le Saint-Esprit qui nous envoie témoigner de la vérité du Christ, afin que tous portent le fruit de l'Esprit. Toutes les manifestations de l'Esprit Saint dans l'Église, toutes les manifestations de la grâce sont des fruits du Saint-Esprit. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler l'âge de l'Esprit chez certains chrétiens et même chez les catholiques, ce qu'on appelle les charismatiques. Les charismatiques affirment, alors il y a différents types de charismatiques, donc c'est un peu difficile de mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a certains qui sont très sérieux et qui défendent la doctrine catholique, et puis il y a ceux qui sont beaucoup plus protestantisants ou carrément protestants et qui suppriment la doctrine au profit de soi-disant charismes. Ce qu'ils ont en commun, les charismatiques, c'est que ils prétendent que des charismes apparaissent, leur sont donnés lors de certaines réunions, lors de certaines prières, et que c'est la manifestation d'un âge de l'esprit qui serait arrivé, hein, comme un troisième âge, l'âge du Père dans l'Ancien Testament, l'âge du Fils dans le Nouveau Testament, et puis récemment, là, au XXe siècle, l'âge de l'esprit. Ça n'a aucun fondement, cette théorie de l'âge de l'esprit n'a aucun fondement doctrinal, aucun fondement dans la foi catholique, dans la tradition catholique. Et puis le fait que ce soit d'origine protestante, c'est effectivement une raison pour laquelle s'en méfier très, très sérieusement. Il me semble que tout cela, je ne vais pas parler ici, il ne s'agit pas de faire une critique en règle du charismatisme et des charismes, parce que je suis très dubitatif lorsqu'on voit que des prêtres, par exemple, se mettent à parler. Il y a une vidéo d'un prêtre qui, par ailleurs, est un prêtre qui a l'air d'être un très bon prêtre, qui défend la doctrine, et qui a fait beaucoup de conversions, etc., et qui prêche sur l'Eucharistie, sur la confession, sur les sacrements, donc... Voilà, mais j'ai vu une vidéo d'un prêtre qui, au moment de la consécration, pendant la messe, se met à parler une langue que personne ne comprend et dire des choses très bizarres que lui-même ne comprend pas. Si vous voulez, l'inutilité de cette manifestation en fait quelque chose de quand même très étonnant et même peut-être inquiétant. Et je ne parle pas là de ce que certains prétendent appeler des effusions de l'esprit, où les gens se mettent à agir n'importe comment, à se trémousser de façon indigne, indécente et ridicule, où ils ont l'impression plutôt d'être complètement fous. Et alors qu'on ne vienne pas m'opposer le verset du roi David qui dansait en présence de Dieu, de l'arche, où les gens croyaient qu'il avait bu, croyaient qu'il était fou, parce que c'était une danse respectueuse, évidemment, et une danse à caractère sacré, qui peut effectivement avoir un sens lorsque c'est en dehors de la liturgie catholique. Mais lorsque c'est simplement une agitation où on a l'impression que les gens perdent la raison, c'est évidemment quelque chose dont il faut se méfier et qui visiblement ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est dans la raison, dans l'ordre, dans la paix, dans le calme, et dans les choses naturelles, non pas dans les manifestations d'ordre surnaturel, en particulier lorsqu'elles sont incompréhensibles et lorsqu'elles n'ont pas de sens. Alors, question 146 pour terminer. Comment agissent le Christ et son esprit dans le cœur des fidèles? Par l'intermédiaire des sacrements, le Christ communique son esprit aux membres de son corps, ainsi que la grâce de Dieu, qui porte les fruits de la vie nouvelle selon l'esprit. Enfin, le Saint-Esprit est le maître de la prière. Alors, c'est magnifique, puisque on va parler dans le prochain épisode de l'Église, dans les prochains épisodes de l'Église, mais on voit ici comment la question des sacrements, la question de la prière, qui feront l'objet des prochaines saisons de ce catéchisme, de ce podcast, comment cela vient bien de l'esprit et intimement lié à ces enseignements du catéchisme de l'Église catholique sur l'action de Dieu dans le monde par son Fils et par son Esprit. Donc finalement, comment le Saint-Esprit agit dans le monde, ce n'est pas à travers des manifestations miraculeuses, ce n'est pas à travers des paroles intérieures ou des choses qui dépasseraient les règles de la nature, mais c'est d'abord par les sacrements et par la prière. Donc si vous voulez que l'Esprit Saint agisse dans votre vie, eh bien soyez un chrétien qui prie chaque jour, qui va à la messe tous les dimanches ou même plus, qui va se confesser régulièrement et qui a une vie chrétienne régulière. Voilà, nous avons tous les instruments qu'il nous faut pour notre sanctification et donc nous n'avons rien à craindre puisque nous avons tout ce que le Christ et l'Esprit Saint nous donnent. Alors comme toujours, aujourd'hui plus que jamais, prions l'Esprit Saint pour nous éclairer, qu'il nous éclaire pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres et de prier pour le pape Léon XIV, notre nouveau souverain pontife. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse.